Soyez les bienvenus sur Radio Grand Air. C'est l'heure de retrouver Alain Jeanne pour votre émission Chut, on écoute la télé. Le talk show radio sur Radio Grand Air, votre web radio en pays foyen sur radiograndair.fr.
Chut, on écoute la télé. Avec votre espace culturel Leclerc de Pineuil, votre spécialiste culture, centre commercial Grand Pineuil.
Et merci de nous rejoindre pour Chut, on écoute la télé, l'hebdo sur Radio Grand Air, des équipes de films, des comédiens, des chanteurs et bien d'autres pour cette heure que l'on démarre ensemble maintenant. Alors c'est parti pour le sommaire.
Chut, on écoute la télé,
le talk show radio.
Et au sommaire de votre nouvelle émission inédite de Chut, on écoute la télé, nous allons avoir le plaisir aujourd'hui de vous parler d'un film qui sort en VOD chez TF1 Studio, notamment Kill Ben Like, avec Erwan Marinopoulos, le réalisateur, et Eugène Simon, également comédien que vous avez vu dans Game of Thrones, qui sera notre invité exceptionnel d'ici quelques instants. Nous recevrons en fin d'émission Marion Crisman, également celle qui incarne Amanda dans Demain nous appartient, viendra nous parler également de sa web-série et Patati et Patata. Et puis, grosse page spéciale aujourd'hui dans Chut, on écoute la télé pour fêter les 28 ans de la saga Hélène et les garçons. Le 11 mai 92 débarquait la série à 18h sur TF1. 28 ans plus tard, ils sont toujours là. Jean-Luc Azoulay sera notre invité, accompagné de Laure Guibert et de Sébastien Roch alias Bénédicte. Et Cri-Cri d'amour, un rendez-vous que vous n'allez pas rater, j'en suis bien certain. On parlera également du film Ma famille t'adore déjà, qui sera diffusé ce soir également sur TF1. Donc vous avez vu, c'est bien chargé encore une fois aujourd'hui. Et on démarre tout de suite par les audiences de la semaine dernière.
Les tops et flops d'audience.
Allez, on passe en revue tout de suite donc les audiences de la semaine dernière. Et puis il y avait donc sur France 2 lundi dernier Meurtre au paradis qui écrase la concurrence avec 5 091 000 téléspectateurs et 19,2% de part de marché. En face, Les Trois Frères ont fait largement moins avec 3 675 000 téléspectateurs et 14,9% de part de marché sur TF1. Secret d'histoire sur France 3 s'en sort pas mal avec 10% du public et 2 452 000 téléspectateurs. Les spectateurs. Mardi, Harry Potter et la Coupe de Feu écrasent la concurrence sur TF1 avec 6 933 000 téléspectateurs et 28,3% de part de marché, mais Tandem sur France 3 résiste très bien avec 5 300 000 téléspectateurs et 18,5% de part de marché. Déception pour l'émission de Frédéric Lopez comme les autres, avec seulement 7,2% de part de marché et 1 977 000 téléspectateurs sur France 2. L'émission n'a pas trouvé son public. Sur M6, mercredi, il y avait Top Chef qui arrive deuxième avec 3 734 000 téléspectateurs pour 16,7% de part de marché, juste au-dessus. The Resident sur TF1 avec 4 235 000. Les rediffusions d'Alex Hugo sur France 2 fonctionnent bien. Plus de 3 millions de téléspectateurs pour 12,6% du public. Jeudi, Les Visiteurs 2, Les Couloirs du Temps, 6 118 000 téléspectateurs et 24,6% de part de marché. En face, M6 résiste bien avec la série Why Women Kill, 3 286 000 téléspectateurs pour 12% de part de marché. Et puis, bon score également pour la série d'Arte, L'Agent Immobilier, avec 6,7% de part de marché et 1 831 000 téléspectateurs. Évidemment, Koh-Lanta arrive en tête vendredi, mais Candice Renoir, même en rediffusion, eh bien, résiste bien et dépasse les 4 millions de téléspectateurs.
Le coup de cœur ciné de la semaine.
Et on va donc découvrir notre coup de cœur cinéma consacré au film Kill Ben Like, un film d'Erwan Marinopoulos avec Eugène Simon, qui sont tous les deux aujourd'hui avec nous. Le film sort en VOD chez TF1 Studio, notamment cette semaine, avec une sortie directement en VOD pour ce film. Et on les accueille tout de suite. Bonjour Erwan.
Bonjour et merci.
Il n'est pas venu tout seul puisqu'il nous a ramené Eugène Simon. Bonjour Eugène.
Bonjour tout le monde.
On dit comme ça, Simon, vous avez mis en anglais
Simon. Eugène Simon, si.
Eugène Simon.
Avec un accent très français.
Exactement. Alors Erwan, première chose que j'ai envie de te dire, pourquoi un premier film en Angleterre?
Écoute, en fait c'est assez simple, c'est que l'histoire que j'ai imaginée avec mes co-scénaristes se passait à Londres. Donc ça c'est la première chose déjà, donc quand ça se passe à Londres c'est quand même plus simple en anglais. Et l'univers, ce mélange de thriller et de violence un peu dans des univers à la Guy Ritchie, à la Tarantino, à la Mark Millar aussi beaucoup, Matthew Vaughn, ça passait quand même mieux en anglais. Moi je trouve que c'est un, spécialement l'humour, c'est quand même vraiment cette espèce d'humour noir comme ça, ça passe beaucoup mieux en anglais qu'en français je trouve. Donc voilà, c'est un choix qui s'est imposé à moi en fait, dès l'origine de l'idée et le lieu de l'action qui est Londres.
Alors si vous aimez l'humour noir un peu british, hein, justement, je pense que vous allez passer un bon moment devant cette comédie. On va planter le décor hein, de l'histoire en quelques mots. Mais déjà, comment on fait pour avoir un mec quand même qui a joué dans Game of Thrones?
Eh ben, on a eu beaucoup de chance que Eugene Simon aime le scénario et qu'il ait envie de rejoindre l'aventure. Donc c'est aussi simple que ça. C'est si l'acteur aime le scénario et si le personnage lui plaît. Et je pense que le personnage intéressait Eugène. Et moi, dès les premiers essais que j'ai vus d'Eugène en vidéo, j'ai vu qu'il avait tout de suite saisi l'essence du personnage.
Tu avais regardé un petit peu, Eugène, le travail d'Erwan avant de dire oui à son film, à son premier film?
Après, dit non, mais après ça, j'avais l'opportunité d'avoir Templeton sur YouTube. J'ai pensé qu'il avait beaucoup de courage à faire un film au sujet de le Cowboys of the West en français, tu sais. Et c'était j'ai trouvé ça très, 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 très amusant et très différent. Très différent, une combinaison du, c'est très, très, très bizarre et aussi fantastique. Donc j'ai pensé, oui, je voudrais essayer ce personnage, cet emploi, pourquoi pas, c'est une aventure.
Alors l'histoire en quelques mots, Erwan.
Le pitch du film, très simplement, c'est que ça se passe à Londres et en l'espace de 24 heures, on a trois personnes qui n'ont rien en commun, si ce n'est de toutes s'appeler Ben Like. C'est leur nom, leur prénom c'est Ben, leur nom de famille c'est Like. Et en l'espace de 24 heures, tu as 3 Ben Like qui se font assassiner sauvagement à Londres. Du coup, la police décide de réunir les 8 Ben Like qu'ils peuvent identifier à Londres dans une safe house, dans une maison sous protection, le temps de comprendre qui leur en veut et pourquoi. Et là, malheureusement, un par un, ils vont commencer à mourir dans la maison de façon mystérieuse.
Qu'est-ce qui t'a donné cette idée? Où c'est que tu l'as eu, cette idée de cette histoire? Ça a germé depuis un moment ou...
Oui, c'était, bah, disons que ça réunissait pas mal de choses que j'aime bien, à savoir une intrigue policière avec des retournements de situation, avec des surprises qu'on peut trouver aussi bien dans les grands classiques type Agatha Christie que dans des choses plus récentes. Ça m'amusait de mélanger ça à de l'humour un peu plus noir, un peu plus violent, à la Guy Ritchie encore, à la Tarantino, à la Danny Boyle, enfin clairement Petit Meurtre entre Amis c'était une des références. Mais en amenant une touche un peu plus moderne, moi je suis très fan de comics, des comics de Mark Millar notamment, et des adaptations qui en ont été faites, donc Kingsman, Kick-Ass. J'avais envie de mélanger un peu tout ça, quoi.
Eugène, qu'est-ce qui t'a plu en premier dans le projet?
Oui, quand je l'ai lu pour la première fois, j'ai senti comme Ben Like avait un attaque du burn. Je voulais savoir pourquoi. Et je me sentais une connexion avec lui parce que sa vie est très très difficile parce qu'il essaye d'être quelqu'un qu'il n'est pas. Il veut donner le monde l'impression d'être célèbre et de toutes les choses comme ça. Et donc j'ai trouvé quelque chose là. J'ai trouvé qu'il y avait quelque chose très très passionnant, mais aussi un peu triste, un peu tragique. Et ça marchait pour moi parce que c'était en même temps très très amusant, parce que il essayait toujours essayait. Et pour moi, il y avait une type du courage là.
On a parlé un petit peu des personnages. Chaque personnage a un petit peu son trait de caractère. Et moi, je dirais que le Ben Like incarné par Eugène, c'est un petit peu trouillard. Comment on pourrait le définir, Eugène?
Ah ouais. la peur, c'est une sensation que Ben peut comprendre. Oui, il a beaucoup de peur. Il essaie à être très courageux. Et il ne veut pas être un lâche. Donc ouais, quand j'ai vu ça sur le script, j'ai pensé que c'était amusant à jouer un personnage comme ça.
Quand on joue dans une série comme Game of Thrones, oui, la plus téléchargée, la plus regardée au monde, comment on fait ces choix de rôle? Est-ce que ça ouvre des portes supplémentaires? Est-ce que ça permet justement de décrocher plus de rôles?
Oui, c'est à vrai dire, après Game of Thrones, j'ai décidé que je voudrais voir ce que le monde a pour moi. J'ai pensé que je voudrais essayer toutes les choses. C'était une expérience incroyable. Game of Thrones, ça m'a enseigné beaucoup. Mais quand j'ai lu Ben Like, j'ai pensé, voilà, merci, c'est fantastique, c'est une opportunité à essayer quelque chose qui est très nouveau pour moi.
Alors Erwan, on t'avait découvert dans la série Templeton en tant que réalisateur. Est-ce que t'as envie de refaire des choses pour la télé?
Oui, refaire des séries avec plaisir. Je me dis toujours, ce serait idiot au moment où on est quand même à l'âge d'or des séries de ne plus faire de séries, donc oui, refaire des séries avec grand plaisir.
Alors, est-ce que ce film, il a vocation aussi à avoir une carrière internationale? Est-ce que c'est aussi pour ça? Le fait de l'avoir en langue anglaise, ça permet de le vendre à beaucoup plus de pays dans le monde et de le montrer beaucoup plus?
Absolument, c'est l'objectif dès le départ, c'est de le sortir pas seulement en France, mais vraiment dans un maximum de pays possibles. Et on a déjà pas mal d'offres en ce sens. Donc oui, c'est beaucoup plus simple à vendre en ayant tourné en anglais, évidemment. Et c'est en plus un genre qui plaît beaucoup à l'international, la comédie de genre comme ça.
Alors il va sortir là en version originale pour ceux qui veulent le voir en VO, mais il va sortir aussi en version française. Donc voilà, pas d'inquiétude hein, pour ceux qui veulent voir la voix française de Jeanne Simon, hein, vous la verrez.
Absolument, oui, il y aura sorti aussi bien en VO qu'en VF.
Est-ce que tu as déjà des idées pour ton deuxième film, maintenant que celui-là va appartenir au public? Est-ce que tu as envie de t'inscrire dans la continuité ou de faire une suite ou plutôt une histoire complètement différente?
Non, alors faire une suite, non, parce que je suis pas un énorme fan de suite d'une manière générale. Je trouve que c'est rare qu'on réussisse à faire une bonne suite à un film. Puis déjà on va voir comment le film marche. Mais en revanche, oui, j'en ai un autre qui est écrit et j'ai un autre scénario que j'ai pas écrit mais sur lequel je pourrais intervenir comme réalisateur. Donc voilà, j'ai deux projets là qui sont en parallèle, en développement.
Tu t'es entouré comment? On va finir par ça parce que j'aimerais savoir un peu l'univers dans lequel tu as construit ce film et les personnes avec lesquelles tu t'es entouré. Est-ce que c'est même que Templeton ou est-ce que tu as gardé ton équipe d'origine?
Absolument, non, t'as tout à fait raison. C'est même pas seulement Templeton, c'est des équipes avec qui je travaille depuis presque 10 ans maintenant. Sur Roxane avant, sur Les Geeks, sur à peu près toutes les séries que j'ai faites. Et c'est très important pour moi cet aspect-là, l'aspect humain et famille. J'ai vraiment besoin d'être entouré non seulement de gens qui soient ultra compétents et talentueux techniquement, et c'est le cas de toute mon équipe, et je perds pas une occasion de les remercier, parce que vraiment c'est des gens incroyablement talentueux, qui on appelle souvent ça une équipe technique, des techniciens et tout, mais pour moi c'est des artistes, ces gens ont un vrai talent artistique. Et en plus de ça, humainement, c'est des gens bienveillants avec qui je me sens bien. Et pour faire mon premier film, je me serais pas vu tourner ailleurs, et c'est une des raisons pour lesquelles on a tourné beaucoup de scènes en intérieur en France, c'est que je voulais pouvoir travailler avec mon équipe.
En tout cas, ce qu'on va voir, c'est Kill Ben Like. C'est le premier film d'Erwan Marinopoulos qu'on soutient nous dans notre émission. Chut, on écoute la télé, on va se réquitter avec un petit teaser, histoire de vous mettre un peu dans le bain. Merci à tous les deux d'être venus nous voir.
Merci à vous.
Merci beaucoup.
Hey, Ben.
Hi.
Welcome, Mr. Like.
Honestly, I mean, this is abuse.
3 people have been murdered in London, all by the name of Ben Like.
Are you Ben Like?
I am Ben Like.
Et Kill Ben Like, ça vient de sortir en VOD chez TF1 Studio. On se retrouve dans un instant pour fêter les 28 ans de la saga Hélène et les garçons et Marion Chrisman. Alors ne bougez pas, à tout de suite dans Chut, on écoute la télé.
Bouge pas, Chut, on écoute la télé revient dans un instant. À tout de suite.
On est vraiment bien sans elle.
I just haven't met you yet.
Chut, on écoute la télé. Chut, on écoute la télé, le talk show radio. Le rendez-vous des stars, c'est Chut, on écoute la télé, votre talk show radio.
Et nous sommes le lundi 11 mai, aujourd'hui 11 mai 2020, et jour pour jour, il y a 28 ans arrivé sur vos écrans, une saga que les Français eh bien, se sont attachés au personnage et qui dure depuis 28 ans jour pour jour aujourd'hui. Et cette saga, on la doit eh bien, à Jean-Luc Azoulay notamment. C'est la saga d'Hélène et les garçons bien évidemment, ça arrivait à 18h pile, le 11 mai 1992. Et Jean-Luc est avec nous pour évoquer eh bien, ce souvenir. Bonjour Jean-Luc.
Bonjour Alain, comment ça va?
Ça va très très bien, merci d'être avec nous. Aujourd'hui, jour du déconfinement, mais surtout, eh bien, reprise des tournages mercredi pour les Mystères de l'amour. Et pour faire un petit retour en arrière ensemble, il est vrai qu'il y a 28 ans, je pense pas qu'aucun producteur digne de ce nom pouvait imaginer un succès pareil et être encore là 28 ans plus tard.
Bah absolument, bien sûr que oui, parce que vous savez, chaque producteur, quand il fait quelque chose, pense que ça va marcher, sinon il ne le ferait pas.
Oui, c'est pas faux. Mais là, 28 ans, c'est la série de tous les records.
Écoutez, c'est formidable. Moi, j'ai été bercé dans mon adolescence par des séries américaines, des sitcoms américaines qui duraient depuis 30, 40 ans. Donc c'est bien, quoi, un petit peu comme eux, à avoir une série qui dure.
Le public a toujours été demandeur de retrouver tous ces personnages.
Oui, parce que je pense que ces personnages font partie de leur famille, c'est leurs amis. Ils font partie de la bande, vous savez. C'est une sorte de grande tribu dans laquelle il y a les personnages et il y a aussi tous les gens qui les aiment bien.
C'est quoi pour vous, Jean-Luc, le secret de ce succès?
C'est l'histoire, les comédiens, l'ambiance. C'est tout un ensemble, l'époque, c'est vraiment tout un ensemble. Et c'est drôle d'ailleurs que ça corresponde à la sortie du confinement, puisque finalement on a sorti la France de son confinement, donc intellectuelle en réalité sans connaître Hélène et les garçons, vous vous rendez compte?
Alors il y a 28 ans, la série a arrivé à l'antenne, dès le lendemain ça a été un succès d'audience incroyable, a donné le tournis à tous les comédiens. Est-ce qu'il y a des souvenirs phares, des anecdotes de cette époque et de ce succès qui vous reviennent comme ça en tête?
Oui, il y en a plein, parce que c'était formidable. Il y a eu, vous savez, il y avait des gens qui venaient, un garçon qui avait installé sa tente de camping devant les studios pour voir les comédiens. Il y avait des gens qui les attendaient à la sortie. C'était vraiment une folie. Quand ils se déplaçaient quelque part, c'était étonnant. Ils sont allés une fois, à Cannes, et ils ont fait plus de succès que toutes les vedettes de toutes les films et de toutes les séries. Voilà, c'était une époque formidable. Mais c'est toujours pareil. Quand ils font une dédicace, quand ils se posent quelque part, les gens sont toujours surpris de voir qu'il y a des milliers de personnes qui les attendent et qui les aiment bien. Et c'est formidable. C'est tout ce qu'on peut dire. Le public est formidable aussi. Mais ils font partie de la série, le public. C'est ça qui est important.
Alors, dans cette saga, il y avait 6 personnages au départ. Quasiment tous sont revenus dans Les Mystères de l'amour, soit faire des apparitions ou, comme Cathy Andrieux, revenir pour vraiment plusieurs saisons. Un seul n'est jamais revenu, c'est David Proulx. Qu'est-ce qu'il est devenu, David?
David, il est comédien, il est mannequin, il a sa vie, on est toujours copains, on s'appelle de temps en temps. Je lui demande de revenir, il me dit « Ah non, pas maintenant, peut-être un jour ». Donc j'attends.
Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont été... un peu récalcitrant à revenir et que vous avez fini comme ça par décider, je pense à Cathy qui a mis quand même 20 saisons à revenir,
oui,
ou encore à Manuela.
Finalement, au début, elle avait une autre vie, et puis finalement on m'a dit pourquoi pas, elle, ça m'amuse de revoir les copains, elle est revenue, puis ça lui a plu, elle est restée. Voilà, c'est aussi simple que ça.
Alors c'est ça aussi le secret, c'est que on sent vraiment une bande de copains qui s'amusent entre eux, et ça transpire à l'écran bien évidemment, parce qu'ils sont tellement copains dans la vie, ils ont peut-être vécu plus ensemble de choses que dans leur sphère privée finalement.
C'est possible, non, mais surtout c'est une bande de jeunes, une bande d'ados ou de post-ados qui ont vécu des choses insensées ensemble et qui se retrouvent, donc ils sont toujours contents de se retrouver. Imaginez vous retrouvez vos copains de quand vous aviez 18 ou 20 ans, vous serez ravis de les voir.
Ah oui, ça c'est clair. Vous avez été surpris, après l'arrêt des Vacances de l'amour, pour vous, je pense que la boucle était un peu bouclée. Est-ce que vous avez été surpris que ça soit Patrick Puydeba qui soit demandeur et qui soit l'instigateur de ce retour en force il y a 10 ans maintenant, parce qu'en fait...
J'ai toujours eu très envie de continuer cette histoire, parce que j'avais toujours des choses à raconter sur cette bande, puisque la bande existe en elle-même. Et Patrick a été le déclencheur, c'est lui qui m'a gonflé pour aller... retrouver les chaînes et leur proposer, voilà, c'est tout. Donc, mais j'ai jamais perdu l'espoir de recommencer de faire la suite de cette histoire.
Alors, je sais qu'il y a un projet qui vous tient à cœur, qui tient à cœur à pas mal de monde à la production et dont les gens sont demandeurs aussi. Est-ce qu'on va revoir un jour une suite à Premier Baiser aussi? Est-ce qu'on a une chance de revoir Camille?
On est toujours dans la même situation que pour Les Mystères. J'essaye toujours de trouver une chaîne qui en veuille. Mais le problème, c'est que les chaînes n'ont pas de place, n'ont pas de budget, que c'est compliqué. Mais c'est vrai qu'on pourra raconter beaucoup d'histoires autour de toute cette autre bande, qui est un petit peu la même finalement, parce que Hélène était la sœur de Justine, et tout le monde serait ravi dans l'équipe de reprendre. Mais bon, j'attends une chaîne. Voilà, je lance un appel aux chaînes.
Ah ben c'est le moment ou jamais, voilà, on a envie de revoir Anthony Dupré, Christophe Ripper, Camille Raymond et toute la bande, bien évidemment, aussi.
Camille est venue, vous savez, dans les vacances de l'amour, dans les mystères de l'amour.
Dans les mystères sur les mariages, souvent.
C'est là, oui, bien sûr.
C'est des grands moments aussi, parce que c'est ça aussi le succès de la série, c'est qu'on vit de grands moments avec eux. On vit des séparations, mais on vit des naissances, des mariages. C'est la vie de tous les jours, un peu, les mystères de l'amour aussi.
Bah, c'est la vie d'une bande de copains, quoi, c'est tout simple. Vous savez, c'est la vie. C'est pour ça quand on me dit comment vous trouvez vos idées, c'est très simple. Je les regarde vivre et je raconte ce qui leur arrive. Comme il arrive des choses à tout le monde.
Alors, là, c'était le 24e épisode qui a été diffusé hier soir sur TMC. Il reste 2 épisodes inédits. Vous reprenez le tournage mercredi. Est-ce que vous pouvez nous dire, là, Jean-Luc, qu'il n'y aura pas d'interruption dans la diffusion? Vous allez réussir le pari complètement dingue?
Il n'y aura pas d'interruption dans la diffusion. Non, non, c'est pour ça qu'on repousse si vite. Parce qu'il n'y aura pas d'interruption dans la diffusion.
Donc vous allez réussir le pari dingue de tourner, de livrer à la chaîne en moins de 15 jours un épisode.
Oui, bien sûr.
C'est ça, la magie de chez la production, moi je vous le dis. Alors, dans vos productions, bien sûr, il y a Camping Paradis aussi qui va reprendre, on espère.
Bien sûr, Camping Paradis, on va reprendre sans doute les tournages fin mai ou début juin ou plus tard, parce que c'est un peu plus lourd à remettre en marche. Mais voilà, tout va reprendre, on va continuer, on va avoir une nouvelle saison de Munch, on va avoir une nouvelle saison d'Astrid et Raphaël, une nouvelle saison de toutes nos séries. Toutes nos séries vont reprendre, on va reprendre le travail.
Ben merci en tout cas d'avoir été avec nous en pleine reprise de travail après ce confinement. Jean-Luc, les 28 ans d'Hélène et Garçon de cette saga hors norme dans Chute, on écoute la télé aujourd'hui. Et pour repartir un petit peu en arrière, pour se faire quelques souvenirs, je vous ai concocté un petit medley des génériques de toutes ces séries que je vous fais écouter maintenant. C'était Pour l'amour d'un garçon, Le miracle de l'amour, Les vacances de l'amour, Les mystères de l'amour. Allez, tout ça compilé maintenant en 2 minutes, je vous fais écouter ça. Merci Jean-Luc.
Avec
une fille, c'est le cœur tout rempli de chansons qui refleurissent à toutes les saisons pour l'amour d'un garçon.
Voilà, ça rappelle des souvenirs, hein, tout ça. 28 ans, eh oui, 28 ans, jour pour jour, Hélène et les garçons débarquaient à 18h sur TF1 et faisaient les beaux jours de la chaîne pendant des années entières. Et 28 ans après, eh bien, l'équipe est toujours là. Et grande chance aujourd'hui, puisqu'on va avoir quelques comédiens qui vont passer avec nous dans l'émission, eh bien, un petit moment pour évoquer ces souvenirs. Et la première, eh bien, c'est Laure Guibert qui est avec nous, qui joue Bénédicte. Bonjour Laure.
Bonjour Alain, ça va?
Ça va très très bien, je suis très heureux de t'avoir Laure. Alors toi, tu as débarqué au 4e épisode, exactement. T'étais là dès le départ et c'est assez incroyable la façon dont tu as été castée pour cette série.
Bah oui, c'est assez magique. Comme dit Jean-Luc Azoulay souvent, c'est un peu comme un conte de fées, c'est-à-dire qu'il m'a vu dans les couloirs travailler parce que j'étais à la déco. Et puis... il en avait parlé à sa directrice casting en lui disant « Écoute, la petite là qui bosse à la déco, ça serait sympa qu'elle passe le casting. » Voilà, donc ça s'est fait un peu comme ça.
Et Bénédicte est née.
Voilà, enfin, difficilement au début parce que pour moi, c'était à l'opposé de ce que je pensais faire de ma vie professionnelle parce que j'avais jamais pensé en fait me retrouver devant la caméra. Mais voilà, après des cours de théâtre, des efforts, des... Et voilà, je me suis mise au niveau.
Alors, il y avait une espèce de phénomène, moi je me souviens à l'époque, où tout le monde regardait, mais tout le monde critiquait. C'est ça qui était assez incroyable, c'est personne n'osait dire qu'il regardait, mais on savait très bien que tout le monde regardait, parce qu'évidemment, oui. Ça se disait pas.
Oui, oui, les gens disaient toujours, ah non, mais moi je regarde pas, mais... Et puis alors, ils rentraient dans des intrigues super précises, où ça montrait qu'ils suivaient chaque jour. Donc ça, c'était drôle. Puis moi, le retour que j'ai, mais encore aujourd'hui, très très souvent, c'est « Vous avez bercé mon enfant ». Voilà. Alors ça revient tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc beaucoup, beaucoup de gens regardaient, beaucoup, beaucoup de gens critiquaient, mais ils pouvaient pas s'empêcher de regarder.
Alors ça fait 10 ans que les mystères de l'amour sont arrivés. Hein. C'est la 4e mouture de cette saga Hélène et Garçon. Patrick et Jean-Luc ont été les instigateurs, Patrick plus particulièrement, puis demain, de ce retour en grâce. Quand Patrick t'en a parlé, comment t'as réagi quand il t'a dit « Tiens, si on revenait ?»
Ben, je crois que tout le monde a réagi de la même façon, c'est-à-dire qu'on était vachement partants. On avait gardé un tel bon souvenir des années aux Caraïbes. On vivait en autarcie quasiment entre nous et comme entre nous, ça s'est toujours extrêmement bien passé. Là, c'est vrai que moi qui suis pas trop nostalgique dans la vie, c'est vrai que quand je regarde des épisodes de cette époque, voilà, j'ai des petits pics nostalgiques où je trouve ça. C'était merveilleux cette époque. C'était merveilleux. Donc je pense qu'on en garde tous des souvenirs incroyables. Et quand Jean-Luc et Patrick nous ont reparlé d'une suite, on s'est dit, ben, retrouvons-nous, quoi, repartons, mais avec un grand plaisir.
Et tu te rends compte, depuis plus de 10 ans maintenant, les mystères de l'amour, le succès ne se dément pas, ça fait des belles soirées, des week-ends de TMC. Quels sont les plus beaux compliments que tu as pu recevoir, ceux qui t'ont marqué, ceux qui t'ont touché, qui te touchent le plus encore aujourd'hui?
Bah, disons que la longévité, moi, c'est quelque chose qui me touche, parce que quelque chose qui suit comme ça la vie des gens... à certains moments. Alors moi, il y a plein de gens qui me disent que on a été là dans les moments importants. Il y a un Irlandais qui m'a dit « Mais moi, j'ai appris le français avec toi ». Alors, je pense qu'il avait flashé sur moi un petit peu. Et donc, je lui avais appris à parler le français. Et puis, il me disait, il y a beaucoup de Russes qui ont appris le français avec nous. Il y a, parce que c'était des textes qui touchaient les étudiants, parce que c'était des petites histoires d'amour qui parlaient à tout le monde. Et puis, ouais, au moment d'Hélène et le garçon, il y a beaucoup de gens qui vibraient avec nous, qui ont partagé, je crois, des moments de leur vie qui étaient heureux ou moins heureux, bah, qui nous faisaient part de leur expérience en nous disant « c'était une bouchée d'oxygène ». Ça nous permettait de tenir. Nous, on avait rencontré aussi des enfants qui passaient de longues périodes dans les hôpitaux, qui nous disaient ben, « c'est notre bouchée d'oxygène, ça nous rafraîchit, ça nous fait du bien, ça nous permet d'avoir une perspective, et voilà, c'est léger et ça nous aide ».
Alors, on peut dire que les deux grands amours de la vie de Bénédicte de ses 28 ans, c'est José et Jimmy.
Oui, c'est deux personnages qui ont été importants dans la vie de Bénédicte, ça c'est sûr, ouais.
Comment s'est passée la rencontre avec Philippe, justement, qui lui a été casté, lui aussi, de façon assez incroyable, un peu comme toi, dès le départ? Oui. Comment vous êtes rencontrés tous les deux, la première rencontre avec Philippe Vasseur?
Ben, la première rencontre, ça a été sur le plateau, parce que lui, il a vraiment commencé au premier épisode. Moi, je suis arrivée 4 épisodes après. En fait, il cherchait une copine pour José. Eh bien, on venait du même univers. Je me souviens très, très bien qu'on a eu... dès le départ, un contact assez artistique parce que Philippe, il peignait à côté. Moi, je peignais aussi. Et on a eu une super bonne accroche. Mais on a eu une super bonne accroche, en fait, tous ensemble parce que on commençait ensemble notre vie de comédien, quasiment tous. Hein, et donc, il y avait une grande simplicité chez tout le monde. Même Hélène, qui à l'époque avait déjà un peu plus de... avait déjà une expérience de télé, de comédienne, de chanteuse, bah, tout le monde était simple, voilà, et ne se prenait pas la tête, donc ça a bien fonctionné en fait.
Eh bien écoute, on va retrouver Sébastien Rock hein, d'ici quelques tout petits instants. Tu le disais, tes plus belles années sont celles évidemment des vacances de l'amour où vous avez tourné sur l'île de Saint-Martin. On va s'écouter le générique des vacances de l'amour, tiens, pour se faire un petit rappel. Pour terminer ce confinement, ça s'est bien passé pour toi, ça a été?
Alors moi j'ai eu beaucoup de chance parce que j'étais en province. Donc, j'étais en Bretagne et c'est vrai que ça n'a rien à voir avec le fait d'être enfermé dans un appartement et pas pouvoir sortir beaucoup. Donc, je m'estime très chanceuse parce que je n'ai pas été malade et j'étais à la campagne.
Alors, je te souhaite évidemment bon courage pour la reprise du tournage après-demain, mercredi. Et puis voilà, prenez soin de vous, soyez prudents, surtout pour nous livrer eh bien en même temps cette 23e saison qui débutera début juin sur les écrans de TMC, puisque voilà, Jean-Luc vient de nous le dire. En moins de 15 jours, il va réussir à tourner, monter, livrer à la chaîne. C'est une véritable prouesse que va nous proposer encore une fois Jean-Luc Azoulay pour ne pas interrompre la diffusion de notre série préférée. Merci à toi alors.
Merci beaucoup Alain, merci beaucoup de m'avoir appelé.
Et on se donne rendez-vous dans 28 ans pour les mystères de la retraite, ça te dit?
Oui, c'est ça. Bien sûr, en tout cas.
Allez, je t'embrasse Laure et puis tout de suite, on va écouter le générique des vacances de l'amour, à très vite.
Merci, au revoir.
C'est un peu comme une récompense, une éternité de jours de chance. Quand de l'amour.
Et voilà pour conclure cette spéciale sur les 28 ans de la saga Hélène et les garçons. Aujourd'hui, cette spéciale dans Chute, on écoute la télé, c'est l'inoubliable, je dirais, le culte Cri-Cri d'amour. Oui, Sébastien Rock est avec nous. Il était là dès le premier épisode, dès le 11 mai 1992 à 18h. Il apparaissait pour la première fois à l'écran sur TF1. Bonjour Sébastien.
Salut Alain.
Merci d'être avec nous.
Eh ben écoute, merci de m'inviter.
C'est toujours un plaisir et franchement, le public est toujours au rendez-vous. 28 ans maintenant que ça dure, est-ce que tu as un souvenir, toi, précis de cette première journée de diffusion et de tout ce qui en a découlé, surtout après, où il était quasiment impossible pour vous de pouvoir sortir où que ce soit après la diffusion?
C'est vrai que c'est un souvenir un peu... Alors, le souvenir du premier jour de diffusion, pas vraiment, mais surtout le souvenir du premier jour de tournage, qui était quelques jours avant, parce que ça a été une diffusion immédiate, en fait. On a tourné, je crois que ça a été une semaine ou deux, 15 jours après le premier jour de tournage, un truc comme ça. Tu dois le savoir, d'ailleurs, mieux que moi, mais je crois que c'était ça. Alors, ce premier épisode... Voilà, moi j'étais devant ma télé, forcément, pour voir le résultat de ce premier épisode, et après ça a été très vite. On était dans le rouge.
Quand t'as rencontré Rochelle pour la première fois, ce couple improbable avec Johanna, que vous avez ensemble incarné, quand tu l'as rencontré la première fois, Rochelle, tu te souviens?
Ouais, je me souviens très bien, parce qu'en fait, moi j'ai été le dernier personnage à être casté, et donc c'était vraiment le jour... En fait, je crois que le casting, j'ai dû le passer un lundi, un mardi, et ils attaquaient le tournage le jeudi, tu vois. Donc, finalement, j'ai passé mon casting. Rochelle était déjà prise sur le casting, donc ils l'ont fait venir, et donc j'ai fait des essais avec elle ce jour-là. Donc j'ai vu Rochelle rentrer dans un bureau avec une caméra, on a fait notre scène, et il y a eu un petite étincelle, parce que on était un couple improbable, c'est-à-dire que Rochelle déjà était plus grande que moi en taille, elle était un peu plus âgée que moi, donc il y avait ce décalage comme ça de physique et de maturité, et puis cette énergie où Rochelle était très drôle, elle était dans le décalage. J'ai tout de suite su que ce couple allait fonctionner, quoi. Voilà, donc je me souviens très bien de ma rencontre avec Rochelle et cette première journée, parce que on a enchaîné le casting. Tout de suite, alors Jean-Luc a dû visionner les essais en direct, où ils ont dû lui montrer les essais. Ils m'ont dit ne bouge pas d'ici, tu vas rester dîner avec nous ce soir, on va te présenter le reste de l'équipe, et jeudi on commence à tourner. Voilà, moi ça s'est passé comme ça.
Alors pour le coup, tu es certainement un des personnages les plus cultes de la série, parce qu'aujourd'hui, bon nombre de personnes qui s'appellent Christian se font surnommer Cri-Cri d'amour. Aujourd'hui, c'est un surnom qui est devenu totalement hallucinant en France pour tous ceux qui s'appellent Christian. Et donc, ton personnage y a participé. Et pourtant, Sébastien, toi, t'es parti au bout de quelques saisons, d'Hélène et les garçons, pour ne revenir que 8 épisodes avant la fin des vacances de l'amour, et pour revenir ensuite dans les mystères de façon définitive. Mais tu as fait quand même une longue pause de ce personnage. T'en avais besoin de cette pause aussi?
Ouais, j'en avais vraiment besoin, parce que en tout, j'avais tourné 180 épisodes de la série, donc c'est déjà pas mal. Donc au bout de 180 épisodes, moi j'étais très jeune, j'avais 18 ans, 19 ans, donc je démarrais vraiment mon métier d'acteur, et c'est vrai que j'aspirais aussi à faire d'autres choses, et là j'avais le sentiment un petit peu de m'enfermer dans ce personnage et dans la série. J'avais envie de faire autre chose, en fait. Donc c'était pas une décision facile, parce que j'avais même la pression de TF1 qui était pas très content. Je me souviens à l'époque que j'arrête, parce que voilà, j'étais un personnage important de la série, donc on était sûr. Je me rappelle que c'était Étienne Moujotte qui m'avait reçu dans sa loge, c'était pendant une interview pour Canal Plus avec Michel Denisot, je me souviens très bien, et il m'avait dit t'es sûr de ce que tu fais, t'es sûr. Il voulait pas que j'arrête la série. J'ai dit ouais, Monsieur Moujotte, je suis sûr, j'ai besoin d'arrêter, il faut absolument que je fasse ma vie, en fait.
Alors, t'es revenu quelques épisodes avant la fin des vacances de l'amour, avant qu'il y ait une longue pause, quand Patrick Puydebas et Jean-Luc Azoulay ont décidé de relancer la saga. Quand Patrick, c'est Patrick ou Jean-Luc qui t'a appelé pour te dire « et si on repartait ?» Qu'est-ce que t'as dit là, à ce moment-là?
Alors moi, c'est surtout au moment des vacances de l'amour que je suis revenu les retrouver pour clôturer la série des vacances de l'amour. Et c'est à ce moment-là surtout que c'est Patrick qui m'a dit « t'es sûr, tu veux pas venir, allez, viens et tout ». J'ai dit allez, ok, là j'ai l'eau avait coulé sous les ponts, et puis c'était une belle occasion d'aller au soleil, de les retrouver des années et des années plus tard. La série s'est arrêtée, et puis quand ils ont décidé de relancer les mystères de l'amour, de créer les mystères de l'amour, là je sais plus si c'est Jean-Luc ou Patrick, j'en sais rien. Ça va être les deux, allez hop, ça vous dit, on repart. Ils ont dû faire le tour du casting, tout le monde était partant. Là, je ne me suis pas posé de questions, par contre.
Eh oui, ça a été immédiat et le succès est là. Tu te rends compte, il reste 2 épisodes de la saison 22 et vous entamez le tournage après-demain de la saison 23. C'est une longévité voilà, hallucinante, un succès incroyable tous les dimanches en ce moment sur TMC à 19h50. On pourra découvrir d'ailleurs l'épisode que vous allez tourner cette semaine. On pourra le découvrir dès début juin. Là encore, c'est un record de rapidité pour Jean-Hugues Cazoulet. Le temps de tourner, monter en 15 jours et livrer à la chaîne un épisode de 50 minutes. Donc voilà, il y a du boulot sur la planche pour cette fin de confinement.
Ouais, c'est ça. On était bien confinés. Moi, j'ai pris le temps aussi de me poser. Ça m'a fait, paradoxalement, ce confinement m'a fait du bien, en fait, personnellement, parce que on est dans une société aujourd'hui, on même plus compte. J'ai l'impression qu'on va hyper vite. On est ultra productif. On veut toujours aller de plus en plus haut, de plus en plus loin, comme dit. Certaines chansons, prendre des avions, courir, travailler, toujours plus et tout. Et là, moi, ça m'a bien stoppé, ça m'a fait vraiment du bien. Alors là, on y retourne, mais je garde quand même cette période maintenant, elle est en moi, et j'ai essayé aussi de naviguer différemment les prochains mois, les prochaines années. Je pense que ce confinement m'aura. Il y aura un avant, un après, comme on dit, voilà.
Exactement, et je suis assez d'accord avec toi, mon cher Sébastien. Voilà, merci à toi, en tout cas, d'avoir clôturé cette spéciale avec nous. Les Mystères de l'Amour reviennent dimanche, je vous rappelle. Donc, les deux prochains dimanches, ce sera les 2 derniers épisodes de la saison 22. Vous redémarrez le tournage, vous êtes quasiment les premiers à redémarrer le tournage dès mercredi. Alors, bon courage et surtout, prenez tous bien soin de vous et faites attention, voilà.
Ouais. C'est vrai, et puis c'est pas parce que c'est un déconfinement qu'il faut faire n'importe quoi, voilà, il faut pas faire n'importe quoi les prochains jours, ni cet été, voilà, il faut écouter un petit peu les autorités, c'est important. Ouais.
Allez, merci à toi, et puis on va se quitter avec un petit mix de 2-3 génériques des Mystères de l'Amour, parce qu'il y en a eu plusieurs, hein, en 22 saisons. Alors, on vous a mixé tout ça, et puis on va vous les faire écouter pour clôturer donc cette spéciale 28 ans de la saga Hélène et les garçons qu'on voulait fêter aujourd'hui, jour pour jour, après le lancement. Donc le 11 mai 1992. Merci Sébastien et à très bientôt.
Merci à tous et à bientôt.
Cœur télé cette semaine.
Et nos coups de cœur télé, eh bien ce soir avec Ma famille t'adore déjà, avec à la réalisation, eh bien Jérôme Commandeur. Le film est diffusé donc sur TF1 à 21h05 et Jérôme Commandeur est justement notre invité. Bonjour Jérôme. Alors cette idée déjà de Ma famille t'adore déjà, elle est venue comment ?
Oui, c'est venu assez simplement parce que pour raconter à nos éditeurs, c'est l'histoire d'un gendre qui intègre avec beaucoup de difficultés sa belle famille, mais c'est pas tant un film sur la belle famille qu'un film sur la famille tout court, puisque finalement, peu importe de quel biais, par quel angle on voit cette famille. Et je trouvais que, au-delà de la comédie romantique, puisque Arthur Dupont et Déborah François tiennent la comédie romantique de ce film avec beaucoup d'élégance, de légèreté, de beaucoup de talent.
Qui incarne Eva et Julien.
Et voilà, les deux protagonistes principaux. Au-delà de ça, au-delà de sujets comme la vie professionnelle ou la bande d'amis, je trouve que la famille est, pour moi, est mon thème de prédilection. C'est-à-dire, je trouve que c'est absolument définitif, inouï, implacable, incontournable de parler de ça au cinéma, parce que c'est un foyer où tout est en général extrêmement mal géré, où la moindre petite phrase est perçue comme une vanne de la part de celui qui la reçoit, tout devient hystérique, on ne se dit jamais rien. On se ment, on essaye d'avoir une meilleure image que son frère parce que il m'a toujours dépassé, je peux pas le supporter, etc., etc. Et voilà, je trouve que, alors j'en dresse un tableau un peu noir exprès parce que ça c'est de la comédie, mais voilà, je trouve que c'est un thème, c'est vraiment le thème par excellence. Et puis pourquoi l'île de Ré? Parce que j'avais envie de faire une satire des Parisiens en vacances, des Parisiens qui ont une maison secondaire
À l'île de Ré,
à l'île de Ré ou dans des très beaux coins de France, ça peut être le Pays Basque, le Luberon ou la Corse. Et je trouve que le Parisien fout toujours le bordel là où il arrive, puisqu'il sait tout mieux que tout le monde. Et je trouvais que ça trouvait très bien son incarnation sur l'île de Ré. Voilà. Alors c'est pas tous les Parisiens, évidemment. Il y a des Parisiens formidables sur l'île de Ré, mais on en a fait une satire.
Jérôme, le choix de Thierry Lhermitte et de Marianne Chazelle pour incarner ces patriarches, un peu de et oui. Matriarches de la famille.
Oui, ça s'est imposé assez vite. Alors, ce qui est toujours un petit peu embêtant quand on écrit, c'est qu'on écrit forcément avec des gens dans la tête, mais après ils peuvent ne pas être libres. Là, en l'occurrence, j'avais un peu l'intention secrète de leur confier ces rôles, mais après il faut toujours que ça puisse devenir réalité. Et puis quand on a su que ça pouvait être deux, on leur a demandé si évidemment ça leur posait pas de soucis qu'on prenne un couple du Splendide. Et puis eux, ça les a beaucoup amusés.
Ils se connaissent bien, faut dire, tous les deux aussi. Ouais. Quelle a été la scène la plus marquante, la plus compliquée peut-être à tourner, celle que tu redoutais le plus?
Immanquablement la régate, parce que j'ai rien trouvé de mieux à faire que sur mon premier film que de me mettre
que de tourner sur l'eau.
Ce qui est une des choses les plus difficiles à faire au cinéma, puisque la météo marine est toujours changeante, le soleil a une intensité qui peut varier d'une minute à l'autre, vous changez de cap, de direction en permanence, et puis surtout le fait évidemment d'être sur un bateau quand on n'a pas forcément le pied marin, ce qui était notre cas à tous, et d'avoir les 8 bateaux, ou 12, je me souviens plus, à régler en même temps que nous, puisque on devait avoir une position de bon dernier, mais il faut quand même que tout ce petit train de bateau puisse avancer convenablement. Donc, c'était extrêmement difficile. Et deuxième chose, il y a ce qu'on appelle des cover sets dans le cinéma, qu'on pourrait dire en bon français solution de repli. C'est-à-dire que si on parle tous les deux sur une terrasse, on peut évidemment faire la même chose à l'intérieur du restaurant. Mais on peut pas faire une régate dans une baignoire. Donc, ça veut dire que si jamais le temps était mauvais, ce qui ne s'est pas passé, la régate était tout simplement annulée, quoi.
Eh bien, merci, Jérôme. Ma famille t'adore déjà. C'est donc ce soir à 21h05 sur TF1. Et voici tout de suite, un petit extrait. Merci, Jérôme, commandeur, et à très vite.
Ah, mon petit cœur. Mon plus grand rêve aujourd'hui, c'est de passer le reste de ma vie avec toi. Famille, si on leur annonçait.
Quoi pour? Bah, t'aurais pu mettre un slip! Maman!
Je vais chercher le défibrillateur!
Allez, soyez fort, je suis sûr qu'on a plein de bons moments à vivre ensemble. Oh, et puis merde.
T'as perdu 6 secondes par rapport à la dernière fois.
Il faut que t'arrêtes avec tes canulars, hein!
T'as les lèvres douces, ce con, hein!
Ça va aussi.
Bon, allez! J'enfile un slip, on passe à table.
Et on va donc se retrouver dans un instant pour la dernière partie de notre émission avec Marion Crisman, l'interprète d'Amanda dans Demain nous appartient, va nous présenter sa web-série. Alors ne bougez pas, on revient dans quelques instants. À tout de suite.
Bouge pas. Chut, on écoute la télé, reviens dans un instant. À tout de suite. Chut, on écoute la télé. Le talk show radio. L'invité d'honneur de la semaine.
Et notre invité spécial confinement aujourd'hui, c'est Marion Crisman. Vous l'adorez dans le rôle d'Amanda, évidemment, dans Demain nous appartient, avec une très belle intrigue qui a tout juste commencé. Juste, allez, pour nous donner un léger petit apéro quand la diffusion de la série s'est arrêtée. Et justement, Marion est avec nous. Bonjour Marion.
Bonjour tout le monde.
Merci d'être avec nous. Marion, moi je voulais t'avoir parce que j'ai découvert eh bien une petite série, une petite web-série. C'est un peu aujourd'hui aussi eh bien le moyen de découvrir des web-séries. Ce confinement, ça nous permet de découvrir des web-séries. Et même si voilà, ce confinement prend fin, eh bien vous pouvez découvrir et patati et patata. Et là, jamais la phrase « la vérité sort de la bouche des enfants » ne s'est aussi bien portée.
On peut résumer cette série comme ça.
Alors, on peut la retrouver sur tes réseaux sociaux, sur ta page Facebook. Et patati et patata, c'est né comment? Je crois que c'est avec une amie, Amélie Prévost, hein, c'est ça?
Oui, exactement. Voilà, une amie comédienne avec qui on fait plein de petits courts-métrages avec des enfants à chaque fois. Et puis, à un moment donné, on s'est dit, mais tiens, est-ce que... voilà, on papoterait pas avec tous ces enfants sur des questions de la vie, de philosophie. Et donc, on a créé une web-série là-dessus. Par exemple, on parle du mensonge, de la vérité, de l'amour, d'écologie aussi, de plein de choses. Et puis là, on s'est dit, tiens, c'est le confinement, mais qu'est-ce qu'ils font ces enfants pendant le confinement? Est-ce que, voilà, on n'irait pas les interroger à distance? Et donc, voilà, d'où est né les deux épisodes des Petits Confinés.
Alors, est-ce qu'il y a des enfants qui, des fois, vous ont vraiment surpris par leur aisance, par leur façon de parler, de s'exprimer par rapport à leur âge?
Ah mais complètement. Et ouais, on est vraiment, vraiment surprise par leurs réponses, par des fois leur fantaisie. Il y en a qui nous font rire parce qu'ils sont vraiment sans filtre. Donc, c'est hyper drôle. Il y en a d'autres qui sont hyper matures pour leur âge. Donc, et je me rappelle, on a eu des crises de fou rire quand on a tourné, donc pas les épisodes déconfinés puisque c'était à distance, mais les épisodes classiques, on a eu des fou rires des fois. C'était pas possible, quoi. Ah ouais, non, c'était très drôle.
Alors, on s'aperçoit, Marion, que, en fait, les enfants comprennent très bien ce qui est en train de se passer quand on les voit s'exprimer dans ta mini-série.
Ouais, ils comprennent très bien et ils ont un autre regard aussi que nous. Ils sont très dans le présent, donc c'est hyper intéressant et ils amènent beaucoup de tendresse et de drôlerie. Donc, je trouve que ça fait du bien de voir ça, de voir des paroles d'enfants. On était très contents de faire ça avec Amélie.
Alors, une autre mini-fiction que j'ai découvert sur ton compte avec Juliette Trezanini aussi, c'est Cupidon est un poisson. Alors, comment est né aussi ce projet? Parce que quand j'ai découvert en fait ce petit programme court, eh bien, j'ai eu l'impression d'être transporté un peu dans l'Amérique des années 60 avec un côté un peu des séries de Marc Chéry comme Why Women Kill, avec un côté très coloré.
Ben merci, ouais, nous c'est notre truc, on aime bien écrire des trucs courts. Pour l'instant on a du mal à écrire plus long, donc on fait des formats assez courts. Et c'est venu parce qu'en fait, on se disait, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait écrire au début sur le fait que c'est compliqué, de, par exemple, de trouver de plus en plus l'amour, et puis qu'il y a beaucoup les réseaux sociaux, etc., enfin les sites de rencontres, pardon, tout ce truc-là, ça nous interrogeait pas mal, donc on se disait, est-ce qu'on pourrait pas faire quelque chose sortirait justement de dire on peut rencontrer l'amour au-delà des sites de rencontres, etc. Et d'un coup, je sais pas, on devait être, je pense, on a écrit ça du coup il y a un moment maintenant, on devait être proche du 1er avril sans doute, et puis d'un coup on s'est dit mais attends, 1er avril, on colle des poissons dans le dos, peut-être qu'en fait on pourrait coller son numéro de téléphone, et hop et hop et hop, et c'est venu et on a écrit cette histoire.
Alors, après ces programmes courts, bien sûr, eh bien, il y a Demain nous appartient. Demain nous appartient, c'est une vraie aventure, pour le coup, qui est arrivée dans ta carrière de comédienne. Et ce rôle d'Amanda, qui va prendre une tournure assez tragique dans les épisodes que l'on verra, puisqu'elle va être victime d'un viol, c'est pas un secret. Et c'est toute une arche qui commence, et j'oserais dire presque, enfin, une vraie intrigue pour Amanda.
Oui, enfin, je suis vraiment ravie. En plus, quelle intrigue, quoi, vraiment... Voilà, je suis très très fière de porter un sujet comme ça à la télévision, à une heure de grande écoute. Donc voilà, une intrigue qui va tourner autour du personnage d'Amanda. Donc effectivement, son côté rigolote, pleine de joie, il va un petit peu disparaître. Mais voilà, elle fera de son mieux pour le retrouver. Mais c'est vrai que ça va être une intrigue plutôt dramatique.
Comment tu l'as appréhendé, ça, justement, quand on te l'a dit? Peut-être que, voilà, je sais pas, les producteurs t'ont dit à un moment donné, bon, voilà, on va oublier pendant un temps la Amanda rigolote et on va basculer un peu, justement, dans le drame. Comment t'as appréhendé ça en tant que comédienne?
Moi, déjà, donc, j'étais ravie que les producteurs étaient enfin de faire confiance pour une intrigue dramatique. Donc, en fait, je ne me suis pas stressée ou quoi en me disant, oh là là, comment je vais faire? Parce que, finalement, j'en rêvais un peu de ça, quand même, de pouvoir faire quelque chose de dramatique. Après, par contre, je me suis mis beaucoup de pression. Parce que autant la comédie, pour moi, c'est vraiment ça depuis le début, on va dire, où je fais ce métier. Donc, c'est, voilà, ça me demande pas un travail non plus énorme. Je sais pas comment expliquer. C'est vraiment un truc qui me passionne. C'est très simple. C'est très dans mon corps. Je sais pas comment expliquer. Alors que tout ce qui est vraiment drame, ça me demande un vrai travail, beaucoup plus de rigueur que dans la comédie qui est vraiment intégrée à moi maintenant. Donc, voilà, j'ai dû vraiment beaucoup plus travailler que d'habitude dans le sens où, par exemple, quand je fais beaucoup de comédies, surtout dans le rôle d'Amanda, j'apprends mon texte, mais je me laisse aussi des fois de la liberté, voilà, je suis détente. Alors que là, vraiment, je voulais tout savoir au cordeau pour que ce soit pas un problème, pour vraiment être libre dans mon jeu. J'avais très peur du résultat, je voulais vraiment être à la hauteur des attentes de la prod, de TF1, des spectateurs. Donc, voilà, il y a eu un vrai travail.
Mais en tout cas, c'est réussi, dis-moi, parce que le dernier épisode qu'on a vu, la dernière image, c'était quand même relativement glaçant, hein.
Ouais, franchement, cette scène, elle était très très bien faite. Et pour la petite histoire, petite anecdote, on l'a fait qu'en une seule prise, parce qu'en fait, c'était tellement comme je casse tout partout, on pouvait pas après refaire, etc. Ça aurait pris vraiment beaucoup trop de temps. Donc en fait, on a répété plusieurs fois comme une chorégraphie avec le temps où je mets pour que, par exemple là, telle carafe, je mets tant de secondes, là, tel truc, c'est tant de secondes à casser, hop, une fois que j'ai fait ça, c'est hop, ça, enfin vraiment toute une chorégraphie. Et quand ils ont dit action, là, ça y est, on la tourne, mais je peux vous dire que j'étais pas très sereine, parce que voilà, j'avais peur de rater quelque chose, je me disais, mince, enfin, on n'a qu'une seule prise. Et au final, j'ai un petit peu raté, entre guillemets, et certaines choses, mais comme il y avait une émotion, et ben en fait, voilà, ça l'a fait, j'étais vraiment à fond dedans, et même si des fois j'ai pas respecté forcément, ou des fois j'ai mal visé, fallait viser certains trucs que je n'ai pas bien visé. Et en fait, voilà, le réel était quand même très content. Et au final, j'ai vu la scène aussi. Et je me dis, c'est cool quand même. On se rend bien compte du désarroi à ce moment-là.
Est-ce que tu as hâte de reprendre le chemin des tournages d'ici quelques jours?
Moi, j'ai hâte. J'attends que ça. Oui, j'ai vraiment. En fait, c'est vraiment très addictif, ce genre de tournage, quoi. On est comme une famille. Donc, du coup, on a vraiment hâte. Et puis, voilà, nos personnages, ça fait un an et demi, moi, maintenant que je fais Amanda. Donc, forcément, ça me manque. J'ai envie d'y retourner, de remettre ses vêtements, de continuer l'histoire. Et oui, on est en contact, bien sûr. Moi, je suis très proche de Solène Hébert, de Kenza Saïd-Couton, de Juliette Rezanini. On s'écrit, là, tout à l'heure, j'étais au téléphone avec Ariane Sillon. Enfin, voilà, on est très, très proche. Il n'y a pas une semaine que je passe sans avoir quelqu'un de Bénin au téléphone.
Bon, eh bien, on va découvrir un petit extrait. Et patati et patata, ouais. Les enfants ont la parole avec Amélie Prévost et Marion Grisman. Une web série qui est réalisée par vous deux. Donc, merci en tout cas, Marion, d'être venue nous en
merci
parler.
À toi.
Dans Chute, on écoute
merci
la télé.
Toi,
et on te fait plein de bisous et on te dit à très vite.
Eh ben oui, à très vite. Je vous fais plein de bisous aussi.
Ça me plaît parce que j'aime bien embêter ma maman.
On a moins de travail, on peut plus dormir.
Et être tranquille.
De faire des activités manuelles.
Je joue à la tablette, je joue à la suite.
Moi, je préfère lire.
Jouer au Lego.
Regarder des films avec maman et jouer avec bébé Léo.
J'adore être avec papa et maman.
Lundi prochain dans Chute, on écoute la télé.
Et on va donc se retrouver lundi prochain dans Chute, on écoute la télé pour un tout nouveau rendez-vous avec évidemment plein de surprises. Et pour tout savoir, évidemment, restez connectés avec nous.
Retrouvez toute l'actualité de votre émission en vous connectant sur notre site onécoutelatélé.com ou sur notre page Facebook Chute, on écoute la télé.
Sans oublier nos applications sur iPhone et Android, Chute, on écoute la télé. Quant à moi, je vous retrouve demain sur Radio Grand Air à 10h20 et 16h20 pour les quotidiennes. Retour de l'hebdo lundi prochain à 18h. En attendant, je vous souhaite une très très belle soirée à l'écoute de nos programmes. À demain.
Chute, on écoute la télé. Avec votre espace culturel Leclerc de Pineuil, votre spécialiste culture, centre commercial Grand Pineuil.